n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Laisse pas béton.
Bonjour, bienvenue sur Laisse pas béton sur Radio Panique 105.4, l'émission qui donne la parole aux personnes concernées par l'atoll, l'enfermement et le système pénal d'État. Aujourd'hui, on est avec le studio volant de Radio Panique depuis la nouvelle FLAC et on va parler criminalisation, répression, résistance avec nos invités.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le thème de l'émission, ce sera de creuser quelques thèmes d'actualité qui nous ont semblé assez importants. Et donc, je vais laisser nos invités se présenter. Enfin, d'abord, moi, c'est Marie et on est avec Robin aujourd'hui pour animer cette émission. Et je vais laisser nos deux invités se présenter.
Bonjour, je m'appelle Myriam et je vais vous parler du procès de la solidarité.
Bonjour, moi c'est Salima et je vais vous parler du collectif Solidarité Répression Curegam.
Voilà, et alors en troisième point, à la fin, ce sera plutôt de parler un peu de l'expulsion de la ZAD d'Arlon. Mais avant ces trois thèmes un peu spéciaux, je vais laisser la parole à Marthe qui va nous faire un petit point actu plus général sur ce qui se passe pour le moment.
Bonjour tout le monde, alors on va remonter à 2 mois auparavant et on commence ces actualités avec, pour changer, une grève dans les prisons. En effet, préavis de grève annoncé pour le 8 février, annulé quelques jours après. Motif, contre l'assouplissement des mesures sanitaires. L'assouplissement concerné était le suivant, les enfants de 12 à 15 ans pouvaient à nouveau venir rendre visite et les détenus pouvaient changer de visiteur unique qui devait pourtant toujours rester le même 4 semaines minimum. Ce préavis de grève avait le mérite, il faut le reconnaître, d'à nouveau clarifier la position des agents pénitentiaires qui ne semblent pas vouloir être des alliés, ni des détenus, ni des familles dans la défense de leurs droits. Cette conclusion se voit d'ailleurs confirmée quelques jours après, le 9 février, lorsque les infirmiers de prison se voient refuser la prime Covid, prime normalement accordée au personnel soignant en cette période. Les infirmiers de prison ont donc exprimé leur colère tout en renonçant à une grève, eux, en justifiant cela par leur devoir professionnel d'assurer des soins. Il ne semble pas que les matons aient la même considération pour les détenus. Au même moment, en France. Justice pour Jimouni, soutien à sa famille. Une marche blanche et un blocage du préau a été organisé à la prison de Meaux, en France, en hommage et pour réclamer justice. Jimouni, pour rappel, est mort après s'être fait tabasser par les matons le 25 janvier dernier. Ensuite, de retour en Belgique, vient le calvaire dans le calvaire.
À la prison de Namur, suite à une flambée des contaminations, il a été décidé de confiner totalement l'établissement pénitentiaire, une situation mal vécue par les détenus.
Pour les 130 détenus de la prison, pour l'instant, eh bien, ils sont confinés 24 heures sur 24 avec leurs co-détenus dans leur cellule. Il n'y a pas de visite, pas de préau, pas de douche, pas de travail à l'intérieur de la prison. Bref, eh bien, ils sont totalement confinés à l'intérieur. Ils n'ont pas la possibilité de sortir de leurs 15 mètres carrés.
Cela a donc commencé à la prison de Namur. Il s'agit de la propagation de cas de Covid-19 et survient alors le confinement total de la prison. D'autres prisons se trouvent ensuite confinées et la tension monte. À Leuze-en-Hainaut, des détenus résistent au pouvoir des matons et à leurs restrictions en refusant de rentrer du préau. Pourtant, la parole entendue dans les médias reste celle des agents pénitentiaires et de leur direction qui se plaignent du contexte ou du manque de moyens. Pour réagir et se faire entendre, le CPDB, le collectif de proches de détenus de Belgique, se rend devant la prison de Namur le 27 février. Le CPDB y dénonce la responsabilité des agents dans la propagation, jusque-là mise sous silence, et y démontre leur soutien aux détenus. En toile de fond, on entend les cris des détenus lors de cette manifestation, qui clamaient leur détresse. Une banderole où il était annoté « Aide, s'il vous plaît » était également brandie à travers les barreaux. Dans la même période, 2 personnes se suicident en prison, une à Lantin, une à Saint-Gilles. Les parquets refusent de communiquer sur la mort. En prison, les autorités t'enferment, puis gardent ta vie et enfin retiennent toute vérité. Toutes nos pensées vont à leur famille et notre colère, vous savez à qui. Maintenant, petit tour non exhaustif vers l'international. Durant ce mois de février, Rougen El Atloul, militante féministe saoudienne, a été libérée le 10 février après 3 ans et dernièrement une grève de la faim. Concernant une autre militante féministe devant l'ambassade israélienne à Bruxelles, ont été posées tags banderoles en solidarité avec elle, palestinienne incarcérée par Israël et également avec tous les prisonniers et prisonnières du régime israélien qui pourraient avoir une place dans le Guinness Book des records en termes d'incarcération, on peut le rappeler. Au même moment, à Athènes. Manifestations et incendies en solidarité avec Dimitri Koufontinas, ex-membre du mouvement 17 novembre et prisonnier de l'État grec qui s'était mis en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Mouvements de solidarité qui continueront d'ailleurs, le détenu a aujourd'hui arrêté sa grève de la faim. Retour en Belgique, mais pourtant plus éloigné encore de la réalité, on va parler des autorités. De leur côté, ça brasse des projets, ça brasse des mesures. Parmi les projets, le portefeuille pour la maxi-prison de Haren a toujours intérêt à grossir. On dépassera sans doute le milliard d'euros pour pouvoir enfermer 1200 personnes. Ça vaut quand même la peine. La reconversion des prisons de Saint-Gilles et de Forêt avance. Les partis politiques s'en frottent les mains, surtout le PS. Un Bruxelles d'un standing social un peu supérieur à celui des détenus est en vue. Enfin, le projet de la prison à Glons, en région liégeoise, pour pallier à celle de Lantin, a été confirmé. Le milieu de construction des prisons ne semble pas connaître la crise. Si on va voir du côté de la justice et de la police, verdict rendu concernant l'affaire Maouda.
Cette fillette kurde tuée accidentellement par un tir policier en juillet 2018. Le policier qui a tué involontairement Maouda écope d'un an de prison avec sursis et d'une amende de 400 euros. Le chauffeur de la camionnette est lui condamné à 4 ans de prison ferme. Julien Crête, Xavier Preya.
On remercie RTL qui rappelle qu'appuyer sur une gâchette, c'est un accident. On remercie également la justice qui rappelle son deux poids, deux mesures quand sont impliquées des personnes issues de la migration et de l'autre côté un policier. Sans ironie maintenant, nous rappelons tout notre soutien à la famille et à son entourage. Mi-mars, la ZAD d'Arlon est expulsée. L'État belge y déploie de grands moyens dans la nuit pour ne laisser aucune chance aux occupants de la ZAD de défendre leur terrain d'habitat et de lutte. Une personne est aussitôt incarcérée et elle est toujours aujourd'hui en détention préventive. Solidarité avec lui et tous, toutes les zadistes. On y reviendra plus loin dans l'émission. Dans les centres fermés.
Il nous a isolés ici. On ne sait pas jusqu'à quand. Maintenant, on a commencé un grève de faim. Les gardiens sont fous. La directrice, ils sont fous. Notre situation. On a essayé de parler avec la directrice. La directrice est toujours occupée. On ne sait pas les choses vont rester jusqu'à quand.
Ce qu'on vient d'entendre est un témoignage d'une personne de Merksplaats. En effet, les mouvements de grève de la faim ont eu lieu dans plusieurs centres en Belgique. La répression de la part des agents a malheureusement donné également des réponses. Des mouvements de solidarité depuis l'extérieur ont également eu lieu en soutien aux personnes à l'intérieur, contre les centres fermés et contre les frontières. Mais pour clôturer ce long fil d'actualité, faisons le point sur les dernières infos concernant les prisons belges. Des préavis de grève de 24 heures ont lieu, entre autres à Marche, depuis ce week-end à Saint-Gilles, pour dénoncer le manque de moyens et de personnel. Plusieurs détenus ont été confinés à la prison de Jamiou. Le confinement a été levé à Hasselt, mais Termonde a pris le relais en quarantaine pour la 14e fois. L'OIP dénonce à nouveau la mauvaise gestion et le ministre de la Justice, qui n'a toujours rien compris, maintient la suspension des permissions de sortie et des congés pénitentiaires, faisant sourde oreille aux détenus, leurs familles et toutes les associations expérimentées en milieu pénitentiaire. Merci de votre écoute.
Merci Marthe pour ce point d'actualité. On va pouvoir passer au thème de cette émission en commençant par le procès de la solidarité.
Personne, personne, personne n'est illégal. Personne, personne, personne n'est illégal.
Et pour parler de cette actu, on a aujourd'hui Myriam avec nous. Merci Myriam d'être venue. C'est une personne qui est en fait poursuivie dans le cadre de ce procès en tant qu'hébergeuse, si je ne m'abuse.
Pas vraiment en tant qu'hébergeuse. Ce qu'on me reproche, c'est d'être une trafiquante d'êtres humains et d'appartenir à une organisation criminelle. Et l'hébergement est un prétexte pour arriver à cette accusation, en fait.
Ben justement, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe dans le cadre de ce procès? Quels sont un peu les faits, en fait, pour lesquels vous êtes poursuivie?
C'est compliqué. Je vais essayer de synthétiser parce que c'est une affaire qui a commencé le 20 octobre 2017 par des perquisitions à Bruxelles, notamment chez moi, chez d'autres personnes, et des arrestations sur un parking de Flandre, des arrestations de migrants qui... des gamins dans la survie qui ouvrent des camions et qui les referment sur leurs égos pour les envoyer en Angleterre en attendant de leur tour de partir. Et voilà, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça devienne une affaire d'une telle ampleur, et que 3 ans et demi plus tard, on a toujours pas de verdict. Et en fait, c'est difficile de synthétiser parce qu'on est 12 dans ce procès, tous avec des profils différents. Il y a 4 hébergeurs belges et 8 migrants sans papier. Et on est censé faire partie de la même organisation criminelle, au détail près qu'on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaissait pas. Maintenant, on se connaît, mais c'est un procès politique, en fait. Ils ont monté un dossier sur des gens qui étaient sur écoute parce qu'ils avaient... un contact téléphonique, mais parfois c'était un téléphone qu'on prêtait, et ils ont fait un dossier monté de toutes pièces pour criminaliser la solidarité et fragiliser l'hébergement.
Oui, c'est ça que tu me disais, vous vous êtes vraiment rencontrés un peu dans la salle d'audience, quoi,
on s'est rencontrés au premier la première comparution à Dendermonde en mai 2018, et voilà, aujourd'hui encore, c'est arrivé il y a 15 jours, en discutant avec un de mes co-inculpés égyptiens, on s'est rendu compte comment on était tous les deux dans cette affaire, parce qu'il avait prêté son téléphone à un égyptien, un de ses compatriotes qui était en centre fermé au centre Caricole, qui m'appelait pour que je lui rende visite avec ce dont il avait besoin, un jeans, des trucs à manger. Il utilisait ce téléphone, le téléphone de ce gars qui est maintenant mon co-inculpé, puisqu'on avait un contact. Sauf qu'on ne se connaissait pas, il prêtait son téléphone.
Et tu parles d'un procès politique, tu me disais des choses intéressantes là-dessus un peu avant, sur la façon dont c'est géré en fait ce procès, qui est en appel pour le moment, on le rappelle, donc c'est pour le moment le procès en appel, parce que le procureur a fait appel, et en fait qui va très très vite, parce que c'est politique, si j'ai bien compris.
En fait, ça a été évident dès le départ, à partir du moment où on a bien vu que dans le dossier, il n'y avait rien sauf des manipulations, des traductions erronées, des coups de téléphonique. On a quand même été sur écoute pendant 3 mois. Et ils ont essayé de faire une organisation criminelle avec des gens qui étaient dans des situations extrêmement différentes, qui ne se connaissaient pas. Et voilà, on a réussi à obtenir le transfert du dossier de la Flandre à Bruxelles, parce que pour la justice flamande, c'était clair, l'affaire devait être jugée en un jour, en mai 2018. On devait être condamné entre 5 et 10 ans de prison. Mais on est bien défendu par des avocats très engagés, des avocats militants, c'est notre chance. Et ils se sont vraiment bagarrés, ça a duré un mois, pour obtenir ce transfert à Bruxelles. À partir de ce moment-là, ça a été un petit peu plus simple, mais ça a été long encore. On a comparu, je ne sais pas, une douzaine de fois, je crois. Et finalement, on a été jugés. Et tout le monde, que ce soit à l'intérieur du palais de justice ou à l'extérieur, était relativement satisfait du prononcé, parce que c'était la meilleure façon de s'en sortir. Voilà, les garçons avaient fait des mois et des mois de prison. Ils étaient libérés, c'était déjà un énorme soulagement. Personne n'a été expulsé par l'office étranger. C'était notre but. Les hébergeurs ont été acquittés. On était OK pour en rester là. Tout le monde allait recommencer, reconstruire sa vie à partir de ce moment-là, parce que tout a été vraiment saccagé pour tout le monde. Et puis le procureur général a décidé de faire appel parce qu'il veut une jurisprudence qui puisse servir à criminaliser d'autres solidaires, en fait. Donc il s'est Oui, c'est ça, c'est un exemple. Il faut faire peur aux hébergeurs. Il faut casser cette dynamique de solidarité envers les sans-papiers.
Et en fait, tu dis, je t'entends dire, les garçons étaient en prison. Ça me fait penser, je pense que par les garçons, tu vises un peu les personnes migrantes qui ont été poursuivies dans ce procès. Est-ce que tu as l'impression que la justice criminalise différemment les personnes sans-papiers des personnes qui sont belges, de toi, ton expérience du procès ?
C'est même... encore pire que ça. Oui, clairement. Mais c'est même pire que ça parce que parmi les hébergeurs, il y a Zakia aussi, qui a la double nationalité. Elle est belge et marocaine. Elle est née au Maroc, mais elle est arrivée en Belgique à l'âge de 2 ans. Quand les flics ont débarqué chez elle ce 20 octobre 2017, comme chez tout le monde, elle a été arrêtée. Elle a été emmenée en prison. Elle a été mise en prison à Gand pendant 2 mois. Comme Walid, qui était hébergeur aussi. Walid, lui, il a fait 8 mois et demi de prison à Dendermonde. Anouk et moi, qui sommes belgo-belges, comme on dit les flics, rien. Mais eux deux, comme ils avaient la double nationalité, enfin Walid est tunisien, mais il est régularisé en Belgique, et Zakia la double nationalité, ils ont été incarcérés. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a déjà une différence énorme. Et pour les sans-papiers, oui, d'office, ils ont tous fait de la préventive, comme s'ils avaient assassiné quelqu'un. Parce que quand tu es sans-papiers et que tu mets un pied en prison, tu n'en sors plus, en fait. Au début, les avocats ont essayé d'obtenir des libérations sous condition, bon, avant le procès, impossible. Ils allaient en... Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le truc en chambre du conseil, tous les mois, puis tous les 3 mois, ils ne plaidaient même plus. C'était clair et net, sans papier, tu restes en taule.
Ouais, pour rappel, la chambre du conseil est celle qui confirme en fait, ouais, la détention préventive, qui contrôle tous les 2 mois et qui dit « Ok, on maintient ou on lève et donc les gens peuvent sortir de prison. » Et en fait, quand on est sans papier ou quand on a une autre nationalité, elle estime souvent qu'il y a un risque de fuite.
C'est ça.
Et donc que la personne pourrait quitter le pays. Et donc, en fait, on la maintient en prison, tandis que les autres peuvent attendre, enfin, les belgo-belges, comme tu dis, peuvent attendre leur procès en dehors de la prison, quoi.
Mais oui, pour nous, ça a été quand même assez confortable par rapport au traitement qu'ils ont eu, eux. C'est culpabilisant même, parce que je suis née ici, parce que j'ai des parents et des grands-parents belges, je m'en sors quand même nettement mieux, quoi.
Et j'ai l'impression que cette distinction de traitement, elle continue aussi même après le procès, parce que, sauf erreur, quand tu vas en prison en tant que personne sans papier, même en sortant de prison, t'as plus de chances, enfin, tu peux aller en centre fermé, par exemple, ou je sais
Mais
pas
c'était,
si t'as
c'était tout l'enjeu, en fait... au premier procès, quand c'était déjà qu'ils soient libérés, parce qu'ils avaient fait entre 10 et 12 mois de prison, et puis 6 mois de bracelet électronique. Et ça, vraiment, c'est l'enfer. Vraiment, pouvoir toucher la liberté du doigt, mais juste l'effleurer, avoir une porte qui est ouverte, c'est beaucoup plus difficile qu'une porte fermée. Il faut avoir le...
Oui, justement, toi, t'es mariée avec...
Avec Hassan, oui, dont je suis la complice pour la justice.
Uh-huh. Et est-ce que tu peux parler un peu de son expérience, du coup, de la prison et du bracelet électronique
Oui, Hassan... Hassan... vient de la jungle de Calais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et quand la jungle a été démantelée, il m'a appelé parce qu'il était traqué, il est égyptien. Donc en tant que migrant économique, ça c'est difficile aussi. Il a pas une guerre à montrer à la télé, il a pas un génocide, il a pas le corps couvert de cicatrices. Donc c'est migrant économique, le mauvais migrant, la vermine à chasser, quoi, vraiment. Et donc, pardon, j'ai oublié un peu l'action.
Oui, ah oui, je te demandais oui, donc,
son expérience de la prison. Et donc, moi, je l'ai hébergé 1 an. Et c'est grâce à lui que j'ai pu héberger aussi tous ceux qui arrivaient de Calais. Et parce qu'ils s'occupaient de l'intendance, tout ça, traduisaient. Enfin, vraiment, on était une équipe, quoi. Et puis, voilà, il a été incarcéré. Quand les flics sont arrivés et qu'il a disparu, enfin, qu'il est parti entre deux flics menottés, je leur ai demandé où il allait, qu'est-ce qu'il allait se passer, comment j'aurais des nouvelles. On m'a répondu, mais quelles nouvelles? Il n'existe pas, il n'a pas de papier. Et ça, c'est vraiment la constante de tout son parcours. Et maintenant qu'il a des papiers grâce à notre mariage et au regroupement familial, mais... C'est, évidemment, maintenant, il a une vie. Avant, il n'en avait pas. Il n'avait pas le droit. Que ce soit dans la rue, dans des jungles, il n'a pas d'existence. Il n'a pas le droit d'en avoir parce que c'est un migrant économique.
Et du coup, justement, tu parles de migrant économique. Tu disais tantôt que c'est un mauvais migrant. Est-ce que tu as l'impression que la justice, dans ce procès, elle fait une distinction entre bon et mauvais migrant? c'est un peu son but.
Ouais, je pense que la justice mélange un peu tout et que. Enfin, en tout cas, maintenant, on est en appel. Et quand j'entends l'avocat général requérir, je me dis, ce gars n'y connaît rien. Il est en train de me donner des leçons, de nous donner des leçons sur ce qu'on doit faire. Mais, par exemple, il pense que les trafiquants d'êtres humains, les passeurs, je sais pas. Moi, je fais la distinction entre les deux. Pour moi, un passeur, un trafiquant d'êtres humains, c'est pas la même chose. Un passeur, c'est un mec qui bricole parce qu'il a besoin de manger, et comme tout le monde. Et voilà, il ferme des camions sur des gars en espérant qu'ils s'en sortent. Et qu'ils aient une vie meilleure en Angleterre. Un trafiquant d'êtres humains, c'est un mec dont c'est le business, qui roule en voiture sur les autoroutes avec des canaux derrière lui dans lesquels il va mettre des migrants, les lancer sur la Manche sans rame, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et donc la question était...
est-ce que la justice fait la distinction entre bons et mauvais migrants ?
Pour la justice, voilà, c'est... je pense que pour la justice... le migrant est coupable à partir du moment où il pose un pied sur notre auguste sol où seuls les gens qui ont plein d'argent à dépenser sont les bienvenus. Mais je pense qu'ils ne sont pas, je suis même sûre, ils ne sont pas jugés pour ce qu'ils font, ils sont jugés pour ce qu'ils sont. Et à partir du moment où, dès le moment où tu arrives ici, tu es coupable juste d'exister, ben c'est difficile de ne pas être criminalisé.
Est-ce que tu as l'impression que c'est possible de venir, enfin même le trajet jusqu'ici, c'est possible de le faire sans être criminalisé ?
Non, mais de toute façon, déjà la manière de faire est criminalisante. J'ai assisté à des scènes à Calais, ils appellent ça des dougars, c'est-à-dire des embouteillages créés par les migrants ou par les passeurs. Pour bloquer la circulation et permettre de monter plus facilement dans les camions. Mais quand on voit, c'est des enfants dans la jungle de Calais, il y avait énormément d'enfants, de mineurs, ils avaient 15-16 ans, et au moment où ils font, où ils bloquent la circulation et où ils s'éparpillent dans tous les sens, poursuivis par des chiens, par gazés, enfin, il y avait des flics, mais vraiment habillés en Robocop, agenouillés, avec un fusil d'assaut pointé sur l'autoroute, quoi. Pourquoi ? Mais pas parce qu'ils sont venus ici, parce qu'ils sont arrivés ici et qu'ils veulent aller en Angleterre pour des raisons qui leur appartiennent et que j'ai pas à juger. Mais forcément, la criminalisation, elle existe parce qu'elle vient de nous, parce qu'on voilà, c'est le seul accueil auquel ils ont droit. D'ailleurs, la plupart les premiers mots qu'ils entendent en français quand ils arrivent en France ou en Belgique, par exemple, c'est allez dégage. Ils savent tous dire allez dégage, même s'ils savent pas dire un mot de français, ils connaissent ça.
Waouh, mais ça me fait en fait penser à quelque chose que tu m'as dit sur le rapport entre enfin le lien de confiance à créer entre personnes migrantes et
mais oui, c'est le regard de la justice, de la police et de beaucoup de gens sur voilà, le migrant doit être un bon migrant pour être, c'est on fait un hébergement, la justice veut créer un hébergement choisi comme il existe une immigration choisie, c'est-à-dire que on peut accueillir un bon migrant par exemple s'il est diplômé, alors là c'est génial, s'il est employable tout de suite sur le marché, c'est génial, s'il vient d'un pays où bombardé ou c'est génial, mais de nouveau, j'ai perdu le fil.
Bah, de dire ce lien de confiance, en fait, on attend voilà. Que eux soient dignes de confiance. Mais
oui, c'est ça. On pense toujours au fait, on se glorifie un peu du fait que voilà, on fait confiance à des gens qui viennent de l'autre bout du monde, on leur ouvre notre porte, on les aide, on est géniaux. Mais il faut se mettre un peu aussi à leur place, qui sont des gens déjà fragilisés parce qu'ils sont seuls, ils ont un vécu atroce. Et ils arrivent ici dans un pays où ils ne parlent pas la langue, ils n'ont rien, ils vivent dans la rue. Et tout à coup, ils rencontrent des gens qui leur disent « Venez, on vous... » Il faut faire confiance aussi. C'est une confiance mutuelle aussi. Il faut aussi penser qu'eux aussi doivent nous faire confiance et qu'on doit être digne de leur confiance. Et moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire depuis le début, c'est le manque de dignité des institutions. Par exemple, au tribunal, c'est ce que j'entends, ce que je vois, quand je vois l'avocat général qui nous poursuit en appel et qui s'acharne véritablement et qui s'endort pendant la plaidoirie des avocats de Zakia et Walid, ça me choque. Par contre, la dignité de ces garçons, de mes co-inculpés, les huit qui sont toujours là, ils pourraient ne pas comparaître. Ils auraient pu nous laisser tomber et dire nous, on se casse. Hein. De toute façon, c'est des sauts de frontières. Un jour, ils sont ici, demain, ils sont en Allemagne, après, ils sont en France. Mais depuis le début, ils comparaissent avec nous par solidarité avec nous. Et ils ont... À l'époque, bon, maintenant, ils sont un peu, le temps passe, donc ils sont un peu plus âgés. Mais il y en avait qui n'avaient pas 20 ans à ce moment-là. Moi, à 20 ans, mais jamais j'aurais eu ce cran-là. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'est eux qu'on regarde comme des merdes et comme des vermines. Ça me choque. Et la justice devrait un peu se poser la question de sa propre dignité.
Ouais, c'est clair.
Excusez-moi, je suis un peu en colère, mais cette histoire me met vraiment en colère.
Ouais,
parce que qu'on soit jugé par des gens qui maîtrisent la problématique, mais pas par un mec qui s'imagine que voilà, le trafic d'êtres humains, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, est organisé comme les affaires de deal, c'est-à-dire qu'il y a un gros dealer qui chapeaute plein de petits dealers qui eux-mêmes chapeautent. Et il voudrait qu'on dise les noms. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est juste une réalité d'un côté de gens qui ont effectivement décidé de profiter de la misère humaine. J'aime bien dire cette phrase parce que c'est ce qu'on me reproche à moi. Et franchement, c'est dur, hein. C'est vraiment la plus sale des accusations à mes yeux. Et voilà, mais qui se penchent sur la question, qui essayent de comprendre comment vivent ces gamins, d'où ils viennent, ce qu'ils ont traversé. Parce que leur truc d'appel d'air, c'est débile aussi. On va les accueillir comme des merdes, parce que sinon, il y en a d'autres qui vont accueillir. Mais on pourrait mettre des miradors avec des snipers et leur tirer dessus. Ils viendraient quand même, parce qu'ils sont dans des situations où c'est ça qui les tient debout. Et c'est des promesses faites à des familles. On va vous sortir de là, on va aller en Europe. Et ils arrivent ici. Et mais quelle dégringolade, quoi. Les illusions se fracassent sur cette réalité. Hassan, par exemple, ça le fait toujours rire quand il voit qu'on est toujours à la recherche du bonheur et qu'on court après le bonheur et qu'on croit que le bonheur est lié à l'argent. Et il me dit, mais alors que si, c'est si facile, il suffit de partager, d'être ensemble, de partager, d'être libre et en sécurité. Ben oui, c'est ça le bonheur, en fait.
À fond. Et du coup, peut-être, ouais, dernière question, peut-être un peu plus personnelle, où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu as un ressenti à faire partager sur ta situation personnelle, sur votre situation, en fait, parce que vous êtes deux là-dedans?
Il a fallu trouver, une fois l'état de choc passé, qui a duré longtemps quand même, parce que quand on parlait des prisons, je suis allée voir Hassan tous les jours en prison, et quand on est dans cette... on met un pied dans ce truc-là, on est dans un autre monde, en fait. On est humilié, on est... je me souviens, quand on nous colle sur le mur pour nous faire flairer par des chiens, par des bergers malinois, comme ça, recto verso, enfin, on nous parle pas comme à des humains, on nous gueule dessus pour un oui, pour un non. Enfin, vraiment, on se remet en question. Mais est-ce que j'ai vraiment fait des trucs? Enfin, est-ce que j'ai vraiment, comme dit l'avocat général, agi bêtement? Est-ce que j'ai vraiment merdé? Donc, il a fallu trouver un sens à cette histoire. J'ai eu la chance d'épouser Hassan et grâce à ça, de le voir construire sa vie. Il disait toujours, j'ai pas eu de vie jusqu'à présent. Maintenant, voilà, il est dans... Et il se rend compte des limites aussi de ce bonheur consumériste. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, il a fallu trouver un sens. Et pour moi, le sens, c'est... il faut pas se laisser intimider. Il faut pas... Parce qu'on a raison. On a raison de dire non à cette politique migratoire ignoble, vraiment ignoble et injustifiable. Ils ont beau essayer de se justifier de toutes les manières, c'est injustifiable. On ne traite pas des êtres humains comme ça. Et voilà, pour moi, le sens, c'est de continuer à Calais, parce qu'à Calais, la situation est pire que jamais. Déjà, c'est une région pas facile. Et il y a un arrêté préfectoral maintenant qui interdit de distribuer de la nourriture aux migrants et qui leur interdit l'accès à l'eau potable. Donc on en est maintenant à Calais à voir des migrants à genoux par terre qui boivent l'eau des flaques d'eau. On est à 2 heures de Bruxelles en ligne droite sur l'autoroute. Donc ce que je fais pour le moment, puisque j'agis bêtement et tout ce que je fais assimilé à de la délinquance, je fais des formations en humanitaire pour avoir un cadre, continuer avec un cadre et pour avoir plus avoir toutes ces emmerdes, parce que c'est pas ça va continuer, la criminalisation va continuer et elle va crescendo. Et nous, on a de la chance d'avoir une visibilité parce qu'on est journaliste aussi et que voilà, pour moi ça a été facile de dire voilà ce qui m'arrive, je fais appel à mes confrères et voilà. Mais il y a plein de sans-papiers qui sont dans les oubliettes, dans les prisons. Et ils iront jusqu'à fond de peine et peut-être même plus loin parce que personne va venir demander où ils sont, ce qu'ils deviennent, etc. J'ai cherché moi-même des gens de la jungle qui avaient disparu à Bruxelles et j'ai fini par les retrouver au fin fond d'une prison. Mais l'un d'eux est sorti après, il avait pris 4 ans, il est sorti au bout de 6 ans.
Ah oui, comment ouais. Ça se fait ?
Oublié.
Enfin, ils sont vraiment invisibles, quoi. C'est comme ouais. Tu disais, ça revient en fait à ce que tu disais.
Il y en a
début.
Plein, il y a beaucoup, beaucoup de procès, mais qui n'impliquent que des migrants, pas d'hébergeurs, donc dans l'indifférence générale. Il y a le procès des 10 Soudanais qui se déroule en même temps que le nôtre. Et bon, on essaye un peu d'attirer l'attention sur eux aussi. Mais déjà, en plus, ils sont du côté flamand de la justice bruxelloise qui est nettement plus répressive. Et qu'est-ce qui va leur arriver ? Ils vont prendre 10 ans, ils vont prendre... À Dendermonde, il y avait des gars qui étaient enfermés, enfin qui avaient pris 10 ans parce qu'ils... qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Soit fermer des camions sur des parkings, ou alors voler des sacs, ou se prostituer, ou enfin c'est quoi ? L'asile, ils n'y ont pas droit. Le CPAS, les aides, ils n'y ont pas droit. Mais ils ont le droit de manger, quand même. Mais en fait, non.
Ouais, si tu rencontres pas quelqu'un de belge, enfin qui a le privilège de la nationalité pour t'aider là-dedans, personne va. Va après, t'accorder tes droits, quoi, même si t'as des droits.
Quand tu vois à quel point la justice s'acharne. Parce que juste, on s'est montré humain, en fait. Je suis choquée souvent de la manière dont on s'apitoie pour des animaux, hein, un chaton battu, un chien. Et, mais alors, des milliers de migrants, des enfants pourtant, et ça, on les enjambe sur les trottoirs. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je fais ça parce que je ne comprends plus rien dans ce monde. Et que si je ne fais pas ça, je n'ai plus ma place dans ce monde. C'est... enfin, en plus, en ce moment, on voit quand même à quel point les gens ont moins peur de mal vivre leur vie que de mourir. Et moi, ce que j'ai trouvé dans la jungle de Calais, c'est des gens qui ont plus peur de mal vivre, mourir, de mal vivre leur vie que de mourir. Et je trouve que c'est comme ça. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. C'est se battre pour avoir une vie qui ait du sens et enfin, qui nous enrichit, quoi. Pas juste pour se prémunir en attendant la mort. Je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste ce qui se passe. Et il faut continuer parce que tout le monde, enfin, les avocats le disent quand on a un petit peu un coup de mou, ils disent allez-y, hein, de toute façon, vous avez raison. Mais bien sûr qu'on a raison. Même l'oncle de Spider-Man disait que quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire.
Mais en tout cas, merci Myriam, c'est vraiment hyper touchant. Merci et beaucoup d'être là pour
merci de m'avoir laissé la parole, c'est gentil.
Et puis, avant de passer à la suite, je voulais quand même annoncer dans l'actualité qu'il y avait, ben, à savoir si ça va faire jurisprudence, à quoi ça sert, mais il y avait Cédric Héroux qui avait aussi, qui a été donc acquitté après 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 5 procès et 5 ans de lutte. Qui était aussi accusé de trafic d'êtres humains et, en tant que passeur. Et donc ça a eu lieu en France. Et donc c'est une victoire à savoir comment elle va peser sur le reste. Et je voulais quand même aussi dire, quand on parlait d'avocats militants, j'ai l'impression que les avocats s'assument comme militants que quand ils sont, on va dire, du côté humain, alors que quand tu disais que le procès aurait pu être fait en un jour et qu'il y a un appel, enfin qu'il y a une militance politique aussi de l'autre côté, et que en fait c'est pas seulement aider des gens, mais c'est aussi les protéger contre bah, contre des attaques politiques en fait.
On nous laisse voir lentement, c'est tari par escale. Entre charter, expulsion, univers carcéral. N'être jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental. Acquis sous d'un examen de conscience radical. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. Que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur l'arbre chancelante et la branche qu'ils ont scié, se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar. Quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir. Les murs se taisent, nos morts sursaignent. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire.
Bien revenue sur l'antenne, l'Espa Béton, 105.4 FM sur Bruxelles, sur Radio Panique et tous les premiers lundis du mois.
Voilà, donc avant de passer au deuxième thème de notre actualité, je voulais juste rappeler le site internet solidarityisnotacrime.org sur lequel il y a une cagnotte auquel on peut contribuer pour soutenir financièrement les inculpés du procès de la solidarité. Il y a également un appel, donc une carte blanche qu'il est possible de signer et qui est disponible également sur ce site. Et maintenant, je laisse la parole à Robin et Salima pour parler de solidarité, répression, cure game.
Merci.
Alors, bonjour Salima. Donc, c'est le
bonjour.
Deuxième sujet de l'émission qui est la fondation de Sorecu. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce qui se cache derrière cet étrange nom?
Oui, donc Sorecu, c'est pour Solidarité, Répression, Cure Game. Donc, c'est un collectif qui s'est constitué suite à des événements qui ont eu lieu dans le quartier de Cure Game, qui sont liés à la mort d'Adil. Le 10 avril 2020, si je ne m'abuse. Une communication maladroite et inappropriée du parquet qui a communiqué dans la presse qu'il allait sans doute y avoir un non-lieu dans cette affaire au niveau judiciaire par rapport aux poursuites des policiers qui sont responsables de la mort d'Adil. Et ce qui a évidemment éveillé la colère qui est déjà présente et dans le quartier. Donc il y a eu des événements qu'on pourrait qualifier d'émeutes, que moi je qualifierais plutôt d'expression d'une colère légitime, et une répression policière assez forte. Et le lendemain, il y avait un appel à rassemblement en soutien et aux jeunes du quartier et en soutien à la famille d'Adil, auquel je me suis rendue. Et je pense que c'était la manif la plus courte de l'histoire des manifs. Donc le rassemblement se passait relativement bien et puis à un moment on a décidé d'avancer et on s'est très vite fait nasser et je pense que tout le monde, tous les gens qui étaient là se sont fait arrêter. Je pense qu'il y a eu une centaine d'arrestations ce jour-là. On a été arrêtés, emmenés aux casernes pour certains, à un commissariat d'Hémostène pour d'autres. On n'a pas tous subi le même traitement évidemment. Et suite à cette arrestation-là, il y a des amendes qui ont commencé à tomber, qui se trouvaient être des propositions de transactions pénales plutôt que des sanctions administratives communales.
Alors, est-ce que tu pourrais dire la différence qu'il y a entre ces deux catégories-là?
Une sanction administrative communale, c'est lié à une décision qui est propre à un territoire, c'est-à-dire que le bourgmestre décide, par exemple, d'interdire les rassemblements. Et si le rassemblement a quand même lieu, la police peut dresser des sanctions administratives. Et là, en l'occurrence, ce que nous, on a reçu, c'était plutôt une proposition de transaction. Donc, ça se passe à un autre niveau. C'est comme une infraction de roulage. Donc, c'est traité par le tribunal de police. Enfin, je vais peut-être dire des bêtises, mais... et donc, ce n'est pas le même niveau. Et là, en l'occurrence, on recevait des amendes Covid. donc dans le cadre de la répression des comportements qui sont censés propager le virus. Donc pour moi, c'était vraiment un prétexte pour coller des amendes plus élevées avec un niveau judiciaire différent et de mettre tout le monde dans le même sac.
Tout en plus en enlevant en plus le, on va dire, le délit politique qu'il pourrait y avoir de manifester.
Voilà, en éteignant cet aspect militant, politique et en lien avec, avec la mort d'Adil, il y avait quelque chose de délégitimation politique du mouvement qui pour moi n'était pas légitime. Donc suite à ça, moi très vite j'ai décidé de ne pas me laisser faire individuellement. Et j'ai communiqué avec les autres personnes qui ont été arrêtées et au fur et à mesure on a décidé de se réunir et de se solidariser face à ça en considérant en plus le fait que nous on avait la possibilité de comprendre ce qui nous arrivait et que sans doute les jeunes du quartier qui ont été arrêtés en même temps que nous n'avaient pas les mêmes moyens de se défendre ou de faire valoir leurs droits. On a pris l'initiative de se dire on va communiquer sur le fait qu'on se rassemble, qu'on va se solidariser face à la répression, face aux amendes, aider ceux qui veulent payer parce qu'ils veulent pas de problème, ou aider ceux qui veulent contester leur amende en donnant des conseils juridiques, en rédigeant par exemple un exemple de contestation, comme des moyens de résistance à la répression policière.
Et c'est un collectif, une association, et est-ce qu'avant de faire ça, il y a eu un constat de choses qui manquaient autour ?
Je dirais, moi, de mon point de vue, que c'est une association de fait, c'est-à-dire que face à une problématique, on s'est réunis et on a pris les décisions collégialement. Donc, d'où qui voulait venir, en tout cas, participer avait la possibilité de le faire. Alors, au début, c'est assez confidentiel. Maintenant, on est dans une dynamique de faire connaître le collectif dans le quartier par le biais d'affichage ou de distribution de tracts dans le quartier. Donc, je dirais qu'on est une association de fait. Voilà, on n'a pas, je pense, la volonté de se constituer en ASBL ou ce type de choses. Voilà.
Et la volonté, donc, ça va être quoi les missions que vous allez vous donner ou
Principalement, je pense, c'est de soutenir les jeunes du quartier dans la réaction qu'ils peuvent avoir face à la police, face à la surveillance aussi, donner des conseils et apporter un soutien. Moi, je suppose que les jeunes du quartier qui sont plutôt issus de l'immigration, issus de milieux vraiment précarisés, ont parfois pas la possibilité même de parler de ce qui leur arrive avec leur famille ou avec leurs proches. Parce que ils ont aussi, à mon avis, peur des conséquences que ça peut avoir sur leur liberté à ce niveau-là. Donc, il y a parfois des tabous sur ces questions-là. Et donc, on suppose qu'il y a des jeunes qui se retrouvent seuls face à ce type de difficultés qui sont clairement traumatisantes. Les contrôles systématiques, les arrestations abusives, la violence policière, les insultes. C'est le quotidien des jeunes de ce quartier depuis très longtemps. Il y a d'autres affaires qui sont liées à ça. Il y a d'autres personnes qui sont décédées, soit dans les commissariats, soit poursuivies par la police. Donc, il y a clairement une ambiance de répression qui oppresse les jeunes de ce quartier. Et moi, je ne vis pas cette oppression-là, mais j'en suis consciente vivant dans ce quartier. Moi, j'ai grandi à Anderlecht. Je suis partie d'Anderlecht comme un mode d'ascension sociale. Et la potentialité de retourner à Anderlecht, je l'ai au début très mal vécu. Et finalement, le fait d'être là, je me dis, c'est bien, il faut des gens qui reviennent à Anderlecht comme si j'étais un migrant qui revenait dans son pays d'origine pour aider les gens qui sont là, quoi. Il y a un peu cette idée-là, quoi.
Et donc tu dis que tu as grandi vers le quartier Kureghem aussi.
J'avais des amis qui habitaient Kureghem, moi j'habitais plus haut, plutôt quartier Bizet, Larroux, qui est aussi un quartier difficile d'Anderlecht.
Et la différence entre avant ton enfance et quand tu es revenu, est-ce que soit tu as un point de vue différent sur la situation, ou est-ce que la situation a changé, est-ce que le vécu est toujours le même?
Je pense que la situation a très peu évolué, elle s'est peut-être empirée. Maintenant, je suis mère de famille, donc j'ai aussi une autre vision de la relation police-jeunesse. Moi, j'ai du bol, mes enfants, ils sont pas racisés, ils sont blonds, yeux bleus. Donc je me dis, je suis tranquille, ils ont du bol, en plus, ils portent pas mon nom. Donc, ils ont plutôt de la chance. Mais du coup, ça met pour moi en lumière la difficulté pour d'autres parents de pouvoir soutenir leurs jeunes dans une société qui, a priori, leur fait pas de place. Et en plus de ne pas leur faire de place, elle leur court après pour une place déterminée, soit la relégation, soit la prison, soit voilà. Donc il y a ce côté-là militant chez moi où je me dis j'ai peut-être un rôle à jouer du fait de mes origines, du fait de mon parcours. J'ai la chance de pouvoir faire valoir mes droits, autant aider ceux qui ont moins les moyens de le faire, quoi.
Ouais, on a un peu parlé vite fait justement de qu'est-ce qui fait que des personnes ont moins moyen en fait d'accéder à la justice ou en tout cas de se défendre. Enfin, on parlait même des tabous au sein des familles et de se retrouver même isolé face à un problème. Donc il y a Kuregem, il y a d'autres quartiers, il y a d'autres cas. Il y a l'ASBL Atlas qui vient d'être fondé, je rebondis avec ça, par Ayoub Bouda, le frère de Mehdi Bouda, qui a été tué à 17 ans, percuté par une voiture de police en août 2019. Et suite à sa lutte, il s'est retrouvé avec voilà, cet ASBL Atlas qui a démarré à un site internet et qui a fait des permanences d'aide juridique les mercredis et samedis de 16 à 18 heures. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'en fait le constat de il manque des aides comme ça, ça existe peut-être dans d'autres quartiers aussi. Et pour l'instant là on parle de Kuregem, mais ça a l'air de concerner beaucoup de monde.
Je pense que ça concerne beaucoup de quartiers populaires. Effectivement, nous on s'est posé la question de est-ce qu'on étendait notre action à d'autres quartiers, est-ce qu'on ouvrait aussi la possibilité à des jeunes d'autres quartiers de pouvoir faire appel à notre aide, soit financière, soit en termes de soutien juridique. On s'est dit que ça serait énormément d'énergie et que ça serait peut-être bien de se concentrer à un niveau local.
Je vais devoir vous interrompre. Je suis désolée, ouais. Salima, mais c'est hyper intéressant. pour passer un petit peu à la suite de l'émission, mais merci si tu as une petite phrase à faire pour conclure.
Je pense que le collectif Sorécu, c'est un collectif de citoyens bénévoles, et donc on a besoin évidemment de soutien et financier pour ceux qui n'ont pas de temps à consacrer, mais aussi de têtes pensantes, de juristes militants et de personnes de bonne volonté.
On vous contacte comment ?
Bonne question. On a une adresse mail. Sorécu@riseup.net.
D'accord. Bah, il y aura toutes les informations pour la cagnotte, pour la carte blanche de Solidarité is not a crime et pour Sorécu. Tout ça, ce sera dans le résumé de l'émission qui sera en ligne et réécoutable sur Radio Panique 105.4.
Voilà. Et donc maintenant, on va passer à un petit point sur la ZAD d'Arlon. ZAD d'Arlon qui a été expulsée il y a quelques jours, maintenant peut-être quelques semaines. Et une personne est toujours en détention préventive à la suite de cette expulsion.
C'est zone à défendre. Pour la ZAD d'Arlon, en l'occurrence, c'est un lieu forestier, mais aussi avec des plaines sur les côtés. C'est un lieu qui amenait beaucoup de biodiversité, énormément. Dedans, on pouvait y trouver des forêts implantées par l'homme, des parties de bois implantées par l'homme, qui étaient en train de mourir naturellement, puisque c'était pas fait pour être à cet endroit-là. Comme l'homme croit toujours qu'il gère la nature, ben là c'est la preuve que pas. Mais surtout, ce qui avait eu comme impact pour la ZAD d'Arlon, c'est qu'il y avait un hibou grand-duc qui était installé là depuis quelques mois. Et donc il allait nicher là. On arrivait dans la saison, hein. On est en plein dedans maintenant. Mais du coup, il va pas pouvoir nicher là puisque ils ont déjà détruit toute la forêt. Donc ça c'est la ZAD d'Arlon. Alors dedans il y avait des cabanes construites, il y avait une gestion des déchets qui se faisait comme on pouvait, parce que c'était pas évident puisque la société à qui appartenait le terrain, c'est eux aussi qui s'occupent de la gestion des déchets dans la ville, et ils ne voulaient plus récolter les poubelles de la ZAD, ça leur permettait de nous salir, quoi.
Ah ouais, c'était une façon de vous sanctionner, quoi.
Ouais, c'est ça, de nous incriminer justement.
Et du coup, est-ce que quand tu vas sur une ZAD, tu sais qu'il y a un risque de terminer en prison, donc d'être aussi criminalisé judiciairement ?
Je sais qu'il y a moyen, mais moi je pensais plus que ce serait pour s'il y a de la révolte ou des trucs comme ça, tu vois. Et il faut croire que je me suis trompé sur mon jugement, puisque justement, on a un ami qui est encore incarcéré à la prison d'Arlon en ce moment, depuis l'évacuation de la ZAD, quoi.
Et comment ça se fait qu'il est incarcéré, enfin, ils vous l'ont dit ou...
Ils ont reçu des on-dit et ils le gardent en préventive et ils veulent qu'il parle, mais lui, il a rien à dire puisque bon, voilà, rien à voir là-dedans, donc, ben voilà, quoi. C'est juste qu'ils essayent de tenir comme ils peuvent. C'est un peu de la vengeance, tu vois, ça les a fait chier que ça a été bloqué comme ça pendant longtemps, alors, maintenant, ils essaient de casser la tête comme ils peuvent, quoi.
Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé, cette expulsion avec l'incarcération qui a suivi?
Alors, pour ma part, moi, j'étais dans une des cabanes, je dormais, et à 5h du mat, j'ai entendu police fédérale en gueulant assez fort, quoi, enfin, une voix autoritaire. Il y avait des lampes de poche et des armes qui avaient l'air d'être à balles réelles braquées sur nous. C'était 5h du mat, donc déjà, normalement, c'est 6h, mais là, c'était 5h, donc ils ont dû nous ficher, genre fichier F ou autre chose, un truc du genre, pouvoir passer outre les heures légales de perquis.
Ah oui.
Ensuite, je me suis levé, ils m'ont mis à terre, puis ils ont commencé à me poser des questions, je ne réponds pas parce que ce sont mes copains. Ensuite, ils ont levé les copains, qui ils essaient de refaire la même procédure, mais personne ne leur parle. Alors, ils nous foutent dehors. Moi, j'étais en chaussettes, t-shirt, et ils étaient vraiment dégueu et froid. Mais pour ma part, ça va parce qu'on a des potes qui les ont sortis en slip, tu vois.
Ah, oui.
Ouais, non, mais pieds nus en slip, quoi. Enfin, c'est scandaleux. Ils mettaient la veste sur les visages. Ils disaient regardez pas. Ils s'habillaient comme des militaires, là, comme si c'était la guerre. Ils étaient 150 forces spéciales. En plus de ça, il y avait la police locale et la police de machin. Et, enfin, il y avait 3 ou 4 unités différentes.
150 pour combien de militants déjà?
Ils nous ont arrêtés, on était 9.
Ouais, c'est ridicule, quoi.
C'est scandaleux. Et ils sont fiers en plus. Enfin, toi, c'est te dire comment c'est grand dans leur tête.
Ouais, ça fait un peu pitié.
Et
du coup, est-ce que vous, maintenant que vous avez été relâché, vous êtes sûr que vous n'irez pas en prison? Ceux qui ne sont plus incarcérés?
Non, absolument pas. Mm-hmm. Absolument pas, parce que en fait, ils nous ont relâchés, mais pour ma part, j'en sais rien du tout de ce qui va suivre de ça. Si ça tombe, il y aura des PV ou peut-être il y aura effectivement un tribunal ou l'autre. Mais vraiment, je sais pas du tout.
C'est stressant, quoi.
Ouais. Enfin, voilà. Je m'y intéresse pas non plus, hein, leur système et tout ça. Ouais. Moi, souvent, je laisse voir venir et puis je m'adapte.
Ouais.
Voilà.
Vous n'avez pas y penser, quoi.
Ça, quoi.
Et votre pote qui est en prison, vous pouvez le visiter pour le moment ou...
Pour ceux qui ont déjà été incarcérés avant, non. Mm-hmm. Du coup, moi, je peux pas. À moins d'être de la famille et d'écrire une lettre de motivation, des choses comme ça, quoi. Et puis, il y a les problèmes du Covid aussi, donc pour lui, c'est limité. Du coup, il doit choisir, est-ce que c'est des gens de sa famille qui viennent, ou un pote ou l'autre, hein, toi, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Mais je suis sûr qu'il aimerait avoir plus de visites qu'est-ce qu'il peut en avoir.
Voilà, et donc tout de suite un petit point pour les big up de cette émission.
Big up, big up,
big up, big up, big up, big up.
Est-ce que Myriam, t'as un petit big up à faire
Oui, je voudrais faire un big up aux 10 Soudanais justement qui sont en procès aussi pour les mêmes raisons et qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas du tout les mêmes chances que nous, et notamment à Haïder, et j'espère qu'ils vont s'en sortir le mieux possible.
Bah, big up à tous les résistants, moi j'ai envie de dire, les temps sont quand même assez, au temps de la répression, donc résistance, big up à tous les résistants.
Big up à tous les enfermés, big up à tous les criminalisés, big up aussi à tous ceux qui sont à Calais et qui soutiennent ceux qui sont traqués et qui se battent contre ça.
Et big up à nos invités qui se bougent et qui font en sorte de se bouger un peu dans ce monde de merde. Et donc on va finir par un petit morceau musical que Myriam nous a proposé. Myriam, tu veux dire un mot sur cette chanson avant qu'on la mette?
Oui, c'est My Jungle Song, comme je dis toujours. C'est la chanson que j'ai écoutée quand je suis revenue de Calais pour la première fois, sous le choc de ce que j'avais vu. Et c'est cette chanson qui m'a fait couler les larmes. Voilà, c'était l'émotion. Et à chaque fois que j'entendrai cette chanson, je reverrai les bâches bleues et la jungle. Et voilà. Et je pleurais.
Et c'est Any Suggestion de Balthazar. Et on se quitte là-dessus. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Et à bientôt.
Ils nous ont pris pour des glands, mais petit gland deviendra chaîne.
Mmh.
when we fought that we swore we wouldn't try to win the heart of the whore of Babylon again. We searched for devotion, we kneeled at this bed, honey, the church wouldn't approve the things that you did. Any suggestion would you? Any suggestion would do? We were taught how to eat from the palms of their hands. They were listed the loudest of all carnival bands. Taught to accept the cards we were dealt from the stable of gold to the envy we felt. Any suggestion would do. Any suggestion would do. Yeah. Any suggestion would do.